18h, l'heure du journal avec Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Karine, bonjour à tous. Comme un boomerang, le Covid version Delta qui nous revient pour l'été, obligeant Emmanuel Macron à de nouvelles annonces ce soir. Vaccination obligatoire des soignants, extension du pass sanitaire, test payant. Voilà les sujets à trancher avant 20h. Et quelle réforme pour la fin du quinquennat? Comment doper la relance? Ça aussi, le président en parlera. Et on verra dans 20 minutes ce qu'en attendent vos invités, Karine.
Oui, deux invités dans le grand entretien de la matinale. François Asselin, d'abord, le patron de la Confédération des PME, ainsi que l'économiste Mathieu Plane, directeur adjoint à l'OFCE. Le variant Delta va-t-il freiner la reprise économique? Toutes vos questions au 01 45 24 7000. Rendez-vous tout à l'heure à 8h20.
Et ce matin, il faut aussi aller à Rome et à Londres. Rome pour prendre le pouls d'une Italie championne d'Europe de football, victorieuse des Anglais hier soir au tir au but. Que la bière était triste dans les pubs de Londres et le réveil douloureux ce matin. À la une aussi, un été meurtrier à Marseille. 6 personnes tuées par balle en à peine 2 semaines. Des manifestations historiques à Cuba contre le régime castriste. Et Nanni Moretti de retour à Cannes.
France Inter.
Il aurait forcément rêvé de nous parler d'autre chose ce soir, mais ce sera bien une 8e allocution sur le Covid. Emmanuel Macron devant les Français à 20h, rattrapé par l'épidémie moins de 15 jours après la dernière phase du déconfinement. Il y aura 20 000 cas par jour début août si on ne fait rien. Olivier Véran a préparé les esprits hier avant un conseil de défense exceptionnel ce matin, dont les décisions seront donc annoncées ce soir par le chef de l'État, Élodie Forêt.
Avec la progression du variant Delta, retour à la communication de crise. Une allocution depuis l'Élysée pour marquer la gravité du moment. Pas de confinement ou de couvre-feu cette fois, mais un appel solennel à la vaccination massive et au-delà de l'obligation pour les soignants qui sera sans aucun doute actée ce matin au Conseil de défense sanitaire. C'est tous les Français que le président va essayer de mobiliser, notamment ceux en contact avec les personnes fragiles. Autres annonces possibles, l'élargissement du pass sanitaire, à voir sur quel périmètre, ou encore la fin de la gratuité des tests PCR. Si les gens paient 50 euros de test à chaque fois qu'ils vont à un concert, ils vont vite aller se faire vacciner, argumente un interlocuteur régulier du président. Emmanuel Macron, soucieux de ne pas se laisser enfermer, devrait aussi évoquer le plan de relance et se projeter sur la rentrée avec toutes les incertitudes liées à l'épidémie.
Alors pour ce qui est de l'obligation vaccinale pour les soignants, la décision a été largement sous-pesée. Tout le monde a donné son avis, dernier en date, le conseil scientifique qui est pour. En revanche, pas question d'élargir l'obligation à tout le monde, comme le demande François Bayrou ou Michel Barnier, le ministre de la Santé est contre, il l'a répété hier. Quant aux tests de dépistage du Covid, on en est à plus de 100 millions depuis le début de la pandémie en France. Il pourrait donc devenir payant, on verra si Emmanuel Macron l'annonce ce soir, alors que certains en usent largement, comme cette salariée d'un laboratoire qu'a rencontré Alice Cachaner, plutôt l'écouvillon que la seringue.
Je suis déterminée et pas de vaccin. Je suis anti-vaccin et voilà, je fais beaucoup plus de tests PCR par rapport aux personnes avec qui je vis, que je côtoie, au moins un par semaine. Et donc ça peut être aussi des autotests. Autotest ou test antigénique ou test PCR. Je le ferai même tous les jours s'il le faut, mais pas de vaccin. Je fais des tests surtout quand je vais voir des membres de ma famille, où je sais qu'on sera plusieurs, pour des événements, un concert, un spectacle ou autre. Donc là, j'ai prévu un petit voyage au mois d'août avec mon mari et ma fille. On essaiera de voir les endroits où on pourra aller simplement avec un test PCR. Il y a une prise en charge, ça ne me coûte rien, donc c'est parfait. J'anticipe, effectivement, ça demande aussi peut-être une petite organisation, mais quitte à faire ça, je le ferai et je le ferai tout le temps.
Vous aimez vraiment ça, avoir un écouvillon dans le nez ?
Vraiment pas, mais je préfère ça qu'à un vaccin et on ne sait pas ce que ça donnera dans les années à venir.
Voilà, pour l'instant, les tests sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Lui ont coûté 2 milliards 200 millions d'euros. Dans son allocution, Emmanuel Macron devrait aussi faire le point sur les réformes à engager avant la fin du quinquennat dans moins d'un an. On a beaucoup parlé des retraites, mais la priorité du président, c'est la jeunesse. Alors, précisera-t-il les contours de la future garantie jeune universelle sur laquelle le gouvernement planche depuis des mois? L'idée, c'est de s'inspirer du dispositif garantie jeune lancé en 2013 et géré par des missions locales. 100 000 jeunes sans emploi ni formation en ont bénéficié. Là, ce serait beaucoup plus large. Potentiellement 1 million de jeunes précaires de moins de 26 ans. Mais pour l'instant, on attend, Claire Chaudière.
Bientôt 6 mois déjà que les arbitrages sont attendus. Antoine Dulin du Conseil d'orientation des politiques jeunesse, au
auteur d'un rapport sur la garantie jeune universelle, ne cache pas son impatience.
Il faut qu'aujourd'hui les annonces arrivent. On doit aller dans un droit qui puisse garantir à la fois un accompagnement renforcé, intensif, et il faut absolument une garantie de ressources qui soit du montant au moins du revenu de solidarité active.
Soit environ 500 euros, espère cet acteur très impliqué sur le dossier. Mais le gouvernement optera-t-il pour des montants d'allocation moins élevés ? L'option est en tout cas sur la table, car l'idée est aussi de toucher les jeunes travailleurs pauvres qui gagnent déjà un peu d'argent.
Des petits jobs qui ne leur permettent pas de vivre, hein, et je pense notamment à des chauffeurs-livreurs que nous voyons les midis, les soirs dans nos rues.
Alors 600 000, 900 000 ou 1,3 million, quel sera le nombre total de jeunes concernés et pour quel degré d'accompagnement ? Il y a là des enjeux éminemment budgétaires, analyse Stéphane Valli, le président de l'Union nationale des missions locales.
C'est à mon avis que le travail, on réfléchit aussi au gouvernement aujourd'hui, c'est de trouver une solution intermédiaire d'un accompagnement qui ne soit pas aussi intensif que celui de la garantie jeune, mais qui soit suffisant quand même pour accompagner des jeunes.
Un dispositif qui gagnerait à être souple, plaide le réseau des missions locales, avec de possibles prolongations au-delà de 18 mois si besoin.
Et lui, sera-t-il prolongé ? Gareth Southgate, sans doute l'homme le plus critiqué d'Angleterre ce matin, sélectionneur des perdants d'hier soir à Wembley. C'est l'Italie qui remporte l'Euro de football un partout après les prolongations, puis 3-2. Terrible défaite à domicile pour des Anglais qui n'ont pas remporté de titre majeur depuis 55 ans. La malédiction continue. De quoi piquer du nez dans sa bière. Hier soir, reportage à Londres, signé Richard Place.
Le dernier espoir vient de s'envoler avec le tir au but raté. Subitement, les fans agglutinés devant l'écran installé sur la devanture du pub réalisent qu'il pleut. Tout à coup, il fait froid. Et puis aussi, Francis a bien trop bu. Déçu. Parce qu'on a perdu. Mais content d'être allé en finale. Et ici, on s'est bien amusé.
And here was quite good fun.
Les mains dans les poches, la moue boudeuse, Kevin est en colère contre le sélectionneur qui n'a pas fait les bons choix selon lui. Le jeune homme porte le maillot et le drapeau anglais.
It was all wrong.
C'était tout faux. On a raté la finale, on a joué comme si on ne voulait pas gagner. Je vais être honnête, je suis déprimé. Évidemment, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Quand je vois ce match, c'est une honte.
To see that performance, it's a disgrace.
Kevin met un coup de pied dans l'un des gobelets en plastique sur le sol et s'en va. Rapidement, la foule se disperse. Plus le cœur à faire la fête, ni même à refaire le match. Sean, lui, sait déjà de quoi son lundi sera fait. Je vais avoir une gueule de bois et je vais dormir. Ce sera un jour férié pas officiel. Une bonne gueule de bois que l'Angleterre va traîner pendant quelques jours. Londres, Richard Place, France Inter.
Et chez les gagnants, inutile de vous décrire l'explosion de joie qui a secoué l'Italie au coup de sifflet final hier soir. Nous aussi, on a connu ça, mais ne remuons pas le couteau dans la plaie. Et honneur au vainqueur. Bonjour Brice de Galzin.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Rome, la Squadra Azzurra et son sélectionneur Roberto Mancini, héros de tout un pays. Et puis de toute la presse ce matin, Bruce.
Ah bah oui, c'est la une de toute la presse italienne, bien entendu, et pas seulement des trois quotidiens sportifs. Et l'Italie en délire pour le Messaggero, l'Europe est à nous pour la Repubblica, ou encore c'est nous les champions pour le Corriere della Sera, et tous les éditos sont dits tyrambiques. On sent bien la patte des journalistes et d'un peuple, en fait, pour qui le football n'est pas seulement un sport. Le triomphe de l'Italie de Mancini, le sélectionneur contre l'Angleterre à Wembley, est le signe de renaissance que nous attendions après la pire période de notre vie, comme la Coupe du Monde 82, après les années de plomb, écrit le Corriere. Il est difficile de dire qui en avait le plus besoin, les Azzurri ou les Italiens, à savoir maintenant si ce championnat d'Europe restera un beau souvenir dans un moment sombre, ou s'il deviendra vraiment le symbole d'une renaissance. Cela ne dépend que de nous, ajoute le quotidien. Pour la Repubblica, la coupe en argent revient à toute une équipe, un collectif. Mais pour cette fin de match, à Gigio Donnarumma, le gardien jeune, géant et barbu, qui a arrêté deux pénaltys d'affilée contre les éternels vaincus anglais. Que Dieu réconforte la reine, écrit le quotidien, qui a déjà bien des soucis.
Brice de Galzin, correspondant de France Inter à Londres. Et justement, ce gardien Donnarumma dont vous parliez, c'est une bonne nouvelle en ricochet pour le PSG, puisqu'il devrait signer à Paris pour 5 ans. Ce joueur élu meilleur joueur de l'Euro hier soir après le coup de sifflet final. C'est une information de nos amis de France Bleu Paris. Enfin, toujours à la page des sports, très chargée ce week-end. Novak Djokovic, heureux comme un Italien. italien hier soir, pas celui qu'il a battu, Matteo Berrettini à Wimbledon, et qui lui a offert son 20e grand chelem, comme Federer et Nadal. 20 grands chelems, et ça ne s'arrêtera pas là, voilà ce que le Serbe a promis.
À Marseille, l'histoire de la violence s'est chargée de trop de nouveaux épisodes ces derniers jours.
6 personnes tuées par balle en moins de 2 semaines, souvent des règlements de compte qui réveillent la douleur dans les familles déjà endeuillées. Amine a 17 ans, il a perdu son frère aîné dans les quartiers nord au mois de décembre, ce frère qui avait 22 ans tout juste. Depuis sa mort, Amine s'est investi d'un combat contre la violence à la tête d'une association. Mathilde Vincenot l'a rencontré.
C'est à chaque fois la même chose. Quand Amine découvre dans la presse un nouveau règlement de compte, un frisson le parcourt et le ramène à cette soirée de décembre. Il pense aux familles.
Malgré le fait que c'est horrible, parce que ça se produit par des tirs, mais ça peut aussi arriver parfois que les personnes sont calcinées, que les personnes sont démembrées. C'est ce qui nous est arrivé à nous. Et j'ai juste envie de leur dire d'en tirer une force, d'aller de l'avant, de s'engager dans des associations qui luttent justement contre cette normalisation de ces crimes.
Amine dénonce l'abandon dans les cités, le manque d'emploi, d'occupation qui rend la tentation de l'argent facile si forte.
C'est vrai que ça commence très jeune, à 15 ans, 16 ans, dès que l'école nous emmerde un peu, et c'est facile de se dire oh bah, je peux me faire 150 euros par jour, je peux juste rester sur une chaise, dès que je vois la police je crie rara et puis tout va bien.
Son grand frère est d'ailleurs rentré très jeune dans le réseau, il a tenté d'en sortir, mais c'est très difficile.
Que ça soit vis-à-vis de ces personnes qui ne veulent pas voir les gens qui bossaient avec eux s'en aller, par crainte qu'ils aillent balancer, par crainte qu'ils aillent reprendre un autre réseau ailleurs, et surtout vis-à-vis de la société qui voit ces personnes comme des étrangers, qui voit ces personnes comme des exclus.
Pour espérer changer les choses, Amine voudrait faire de la politique. Il vient tout juste d'avoir le bac.
Mathilde Vincenot à Cuba, on se pince pour y croire. Des milliers de Cubains dans les rues des grandes villes de l'île, criant « à bas la dictature », manifestation historique dans un pays en pleine crise économique. Les Cubains manquent de tout, les pénuries alimentaires se sont aggravées, il y a des coupures de courant dans l'île. Le président Miguel Díaz-Canel accuse la mafia cubano-américaine d'être à l'origine de ce soulèvement et appelle ses partisans à descendre dans la rue à leur tour pour défendre la révolution. Autre pays, autre contestation, nous partons au Chili, secoué depuis 2 ans, là aussi par une révolte sociale. Les manifestants là-bas se réfèrent volontiers à une figure légendaire de la gauche chilienne, le chanteur Victor Jara. Protest Song, c'est notre série de l'été, la bande-son de la colère, signée Cyril Sauvageau.
Santiago du Chili, automne 2019. Après plusieurs semaines de contestations émaillées de violence, les autorités déclarent la loi martiale renvoyant les Chiliens aux heures les plus sombres de la dictature Pinochet. Un soir, une chanteuse d'opéra brave le couvre-feu pour entonner a cappella depuis sa fenêtre « Le droit de vivre en paix », un chant révolutionnaire de Victor Jara. La vidéo a fait le tour du monde. Elle rappelle à quel point le souvenir de ce chanteur engagé, victime du régime Pinochet, demeure vivace au Chili. Raflé en 73, le jour du coup d'État contre Salvador Allende, le guitariste aura les mains brisées dans le stade de Santiago.
La luna es una explosión que funde todo el clamor.
Pour les Chiliens, la musique et la voix de Victor Jara symbolisent aujourd'hui encore la résistance à l'oppression. Rien de surprenant donc à ce que ces chansons soient reprises en chœur dans les manifestations contre le gouvernement de droite de Sebastián Piñera. Au bout de presque 2 ans, la pression de la rue a porté ses fruits avec l'élection ce printemps d'une assemblée citoyenne chargée de réécrire la constitution héritée de Pinochet. Une page se tourne au Chili et la musique de Victor Jara est toujours là.
Cyril Sauvageau, une nouvelle vague de chaleur attendue dans l'ouest des États-Unis et au Canada. Samedi, il a déjà fait 47 degrés Celsius à Las Vegas. Les services météo ont mis les villes de Phoenix et de San José, épicentre de la Silicon Valley, en alerte. Le Canada redoute de nouveaux incendies. Et il fait chaud sur la Croisette à Cannes, c'est normal. C'est le festival et le retour d'un Italien, encore un, Nanni Moretti, primé il y a tout juste 20 ans avec la chambre du film. Il revient avec Tre Piani, Alexis de Meyer, le destin croisé des habitants d'un immeuble de 3 étages.
très pianiste s'ouvre par un accident de voiture dans la nuit romaine. Ce sont ensuite les parcours accidentés des habitants du bâtiment dans lequel le chauffard a fini sa course que l'on va découvrir. La vie d'un immeuble, la cohabitation entre étrangers, voilà qui résonne fortement avec les périodes de confinement que nous venons de traverser. Nani Moretti.
Souvent, on attribue généreusement à mes films des vertus prophétiques. Et dans Trépiani, en effet, les personnages comprennent qu'on ne peut pas se renfermer dans son appartement et qu'au contraire, on a besoin d'une ouverture sur le monde extérieur.
Ce 13e film, signé Moretti, terminé depuis plus d'un an, nous parle de justice, de culpabilité et de parentalité. Il est aussi question de charge mentale et de femmes qui veulent échapper à leurs conditions.
Les personnages masculins restent emprisonnés dans le rôle qu'ils tiennent au sein de leur famille. Il y a des nœuds qu'ils ne veulent pas dénouer. Alors que les personnages féminins cherchent au contraire à défaire ces nœuds.
Trépiani, adaptation d'un roman israélien, parvient à nous émouvoir par la justesse des relations humaines. La mise en scène de Moretti, en revanche, est un peu trop sage. On est ici bien loin des expérimentations très inspirées de sa période Journal intime.
Et attention, alerte pluie sur la Croisette aujourd'hui, pluie de stars en perspective pour accompagner le dernier film de Wes Anderson, The French Dispatch, tourné à Angoulême avec Frances McDormand, Benicio Del Toro, Mathieu Amalric, Léa Seydoux et encore bien d'autres.
Merci Florence Paraculeuse de nous faire rêver comme ça. Belle journée. On fait tout de suite un point sur la météo.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Stéphanie Fromentin, le ciel ne se présente pas sous son meilleur jour.
Et non, cette journée va donner le ton d'une semaine assez éloignée des conditions estivales. Seul l'extrême sud-est de la Provence à la Corse profitera d'un lundi au soleil. Ailleurs, la journée se part de toutes les nuances de gris et ce rythme note de la pluie. Les averses seront fréquentes, soutenues, localement orageuses sur la Nouvelle-Aquitaine, le centre, le Morvan et la Champagne. Elles se décalent en cours de journée sur le Massif central, le nord des Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté en passant par la Lorraine. Ce ciel orageux stagne sur la Normandie et le Pas-de-Calais et s'accompagne d'un vent sensible, 40 à 50 km/h sous les plus fortes averses, 60 en vent de sud dans la vallée du Rhône et 70 pour la Tramontane.
Alors l'Est conserve des températures estivales.
Au sud-est, effectivement, le soleil fait son effet, 27-32 degrés. Et au nord-est, les orages tardifs laissent le mercure grimper à 25-27 degrés. Partout ailleurs, en revanche, les maximales se situent entre 18 et 22 degrés de la Manche aux Pyrénées, 18 à Cherbourg, 19 au Havre et La Rochelle, 21 à Châteauroux, Clermont-Ferrand et Angoulême, 22 à Reims ou Albi, 23 à Dijon, Chartres, Carcassonne, Paris et Cannes.
Merci Stéphanie. À tout à l'heure. À suivre, Géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter.
Bonjour Pierre Aski.
Bonjour Karine.
Vous revenez sur les zones d'ombre de l'assassinat du président haïtien.
Crime politique ou règlement de compte mafieux, ou les deux. Cinq jours après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse dans sa résidence de Port-au-Prince, le mystère reste entier sur les raisons de son élimination, y compris sur le rôle réel des mercenaires colombiens tués ou arrêtés. Et rien de ce qui se déroule actuellement dans le pays ne permet d'être réellement optimiste sur son avenir. La veuve du président assassiné, Martine Moïse, elle-même grièvement blessée dans l'attaque nocturne et hospitalisée aux États-Unis, a diffusé hier un message enregistré qui accuse, sans les nommer, les opposants politiques de son mari. Elle parle d'ennemis de l'intérieur et promet de poursuivre son action. Mais pour beaucoup d'Haïtiens, le mode opératoire des assassins de Jovenel Moïse porte plutôt la signature d'une piste criminelle, mafieuse. Comme un règlement de compte entre gangs rivaux, comme un châtiment pour trahison, écrit un blogueur haïtien.
Mais l'influence des mafias est-elle aussi importante ?
Sans aucun doute, et c'était l'un des griefs de l'opposition et de la société civile contre Jovenel Moïse. Son nom est régulièrement cité dans plusieurs affaires, dont un scandale majeur concernant l'importation de pétrole du Venezuela. Et Haïti est devenue une plaque tournante du trafic de drogue. De plus, et c'est l'une des causes d'inquiétude les plus fortes de la population haïtienne, les gangs criminels font régner la terreur dans les villes du pays. Des dizaines de gangs armés, dont certains ont des ramifications jusqu'au sommet de l'État. Le plus connu des chefs de gang, l'ancien policier Jimmy Cherizier, plus célèbre sous le nom de guerre de « Barbecue », a menacé de lâcher ses hommes dans la rue pour protester contre l'assassinat. Dans une vidéo sur laquelle il apparaît vêtu d'un uniforme kaki, Barbecue parle d'une conspiration nationale et internationale contre Haïti et dénonce la bourgeoisie puante qu'il accuse d'avoir sacrifié le président. On est à front renversé. Voilà un chef de gang qui défend l'ordre établi contre ceux qui sont d'ordinaire, les tenants de la stabilité. Un bon résumé de la confusion actuelle.
La communauté internationale peut-elle aider Haïti dans ce contexte-là?
Alors c'est un énorme point d'interrogation, Karine. Le gouvernement, avec le peu de légalité qui lui reste, a demandé aux États-Unis d'envoyer une force pour aider à stabiliser Haïti. On imagine mal Joe Biden qui est en train de retirer son armée d'Afghanistan et qui est par principe réticent aux interventions militaires extérieures, s'engager dans une opération à très haut risque. Envoyer l'armée américaine contre les gangs de Port-au-Prince, servir de cible et très rapidement de bouc émissaire à tous les maux du pays, ça n'est pas très attrayant. Le principal risque aujourd'hui, dans le vide institutionnel laissé par l'assassinat du président, est de voir Haïti s'enfoncer dans son sort d'État en faillite, sous le contrôle direct ou indirect de gangs criminels. Inquiets de cette perspective, de nombreux Haïtiens font désormais le siège du consulat américain pour demander l'asile politique. Un signe inquiétant de plus.
Merci Pierre Aski, je vous dis à demain. Merci.